Ils restèrent quelque temps assis ensemble, la tête baissée, sans mot dire. Puis soudain, Pipin releva le front et vit que le soleil brillait toujours, que les étendards continuaient de flotter au vent. Il se secoua.
« C'est passé, » dit-il. « Non, mon cœur refuse encore de désespérer. Gandalf est tombé, mais il est revenu et il est avec nous. Il se peut que nous tenions, ne serait-ce que sur une jambe. Du moins, nous pourrions finir encore sur nos genoux. »
« Bien dit !» s'écria Bérégon, se levant et arpentant le pavé. « Non, bien que toutes choses doivent disparaître avec le temps, ceci n'est pas la fin du Gondor. Quand même nos murs seraient pris par un redoutable adversaire qui lèverait devant lui des amas de charognes, il y a d'autres forteresses et des chemins secrets qui mènent dans les montagnes. L'espoir et la mémoire survivront dans quelques vallées cachées où l'herbe demeurera verte. »
« Tout de même, j'aimerais qu'on en finisse pour le meilleur ou pour le pire, » dit Pipin. « Je suis loin d'être un guerrier, et toute idée de bataille me répugne. Mais être obligé de rester sur les côtés en attendant qu'elle se déclare est la pire chose qui soit. La journée commence, mais elle paraît déjà bien longue. Je serais moins malheureux si nous n'étions pas forcés d'attendre et d'observer, sans faire un seul mouvement, sans frapper nulle part un premier coup. C'est ce qui serait arrivé au Rohan, je pense, n'eût été Gandalf. »
« Ah, vous mettez le doigt sur une plaie qui en indispose plus d'un, » dit Bérégon. « Mais les choses seront peut-être différentes quand Faramir reviendra. Il est hardi, plus hardi que beaucoup ne l'imaginent. Car de nos jours, les hommes sont lents à croire qu'un capitaine puisse être sage et savant, versé comme lui dans la tradition et les chants, tout en étant un homme de prouesse, au jugement sûr et prompt sur le champ de bataille. Moins avide et moins téméraire que Boromir, quoique non moins déterminé. Mais dans les faits, que peut-il faire? Nous ne pouvons assaillir les montagnes du royaume là-bas. Notre champ d'action est réduit et nous ne pouvons frapper avant que l'ennemi décide d'y entrer. Mais quand il le fera, nous devrons avoir la main lourde. » Il frappa la garde de son épée. Pipin le regarda, grand, fier et noble, comme chacun des hommes qu'il avait vus jusque-là dans ce pays. Et ses yeux étincelaient à l'idée de se battre.
« Hélas, ma propre main paraît légère comme une plume, » songea Pipin en son fort intérieur. « Un pion, » disait Gandalf. « Peut-être, mais sur le mauvais échiquier. »
Ils parlèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil fût à son zénith. Alors les cloches de midi retentirent soudain, et il y eut quelque agitation dans la citadelle, car tous, hormis les guetteurs, allaient prendre leur repas. «
Voulez-vous m'accompagner ?» demanda Bérégon. « Vous pourriez venir à mon messe pour aujourd'hui. J'ignore à quelle compagnie vous serez affecté. Le Seigneur pourrait aussi vous garder à sa disposition. Mais vous serez le bienvenu, et il serait bon de rencontrer autant d'hommes que possible pendant qu'il est encore temps. »«
Avec plaisir, » dit Pipin. « Je me sens bien seul, à vrai dire. J'ai laissé mon meilleur ami au Rohan, et je n'ai eu personne pour discuter ou plaisanter. Je pourrais même rejoindre votre compagnie. » « Vous en êtes le capitaine? Si oui, vous pourriez me prendre dans vos rangs ou parler en ma faveur. »«
Que non !» fit Bérégon en riant. « Je ne suis pas capitaine. Je n'ai ni fonction, ni rang, ni dignité, n'étant moi-même qu'un homme d'armes de la troisième compagnie de la citadelle. Mais le seul fait d'être de la garde de la tour du Gondor vous vaut une grande considération dans la cité, maître Pérégrin. Et ces hommes sont honorés à travers le pays. »
« C'est bien au-dessus de moi, alors, » répondit Pipin. « Reconduisez-moi à notre chambre, et si Gandalf n'y est pas, j'irai où vous voudrez, en tant qu'invité. »
Gandalf ne s'y trouvait pas, et il n'avait envoyé aucun message. Pipin accompagna donc Bérégon, et il fut présenté aux hommes de la troisième compagnie. Et Bérégon parut en tirer autant d'honneur que son hôte, car la présence de Pipin fut des plus appréciées. On avait déjà beaucoup parlé dans la citadelle du compagnon de Mithrandir et de son long tête-à-tête avec le Seigneur. Et la rumeur voulait qu'un prince des demi-hommes fût venu du Nord pour offrir son allégeance au Gondor ainsi que 5000 épées. Et d'aucuns disaient que les cavaliers du Rohan, lorsqu'ils viendraient, arriveraient chacun avec un guerrier demi-homme en croupe, certes petit, mais vaillant. S'il dut contredire à regret cette fable encourageante, Pipin ne put s'affranchir de son nouveau titre, bien dû, trouvait-on chez les hommes, à qui s'était attirée la faveur de Boromir
et l'honneur du seigneur Denethor. Et, suspendu à ses paroles et à ses histoires de contrées éloignées, ils le remercièrent d'être venu parmi eux, et lui offrirent autant de nourriture et de bière qu'ils pouvaient le souhaiter. En fait, son seul souci fut de rester sur ses gardes, comme le lui avait conseillé Gandalf, et de ne pas parler à tort et à travers, comme un hobbit entouré d'amis. Enfin, Bérégon se leva.
« Au revoir pour l'heure, » dit-il. « Je reprends le service jusqu'au coucher du soleil, comme tous ceux qui sont ici, je pense. Mais si vous vous sentez seul, comme vous le dites, peut-être aimeriez-vous un joyeux guide pour vous faire visiter la ville. Mon fils serait ravi de vous accompagner. C'est un bon garçon, je puis le dire. Si cela vous agrée, descendez jusqu'au tout premier cercle et demandez la vieille hôtellerie de Rath Kellerdine, la rue des Lanterniers. Vous le trouverez là-bas avec les autres garçons qui sont restés. Il pourrait y avoir des choses intéressantes à voir à la grande porte avant la fermeture. » Il sortit et tous les autres le suivirent peu après. La journée était encore belle, quoique de plus en plus brumeuse, et il faisait chaud pour un mois de mars, même aussi loin au sud. Pipin avait sommeil, mais il se morfondait dans le logement et il décida de descendre explorer la cité. Il apporta à Scadufax un morceau qu'il avait gardé et que la bête accepta de bonne grâce, bien qu'elle ne parût manquer de rien. Puis, par de nombreuses rues sinueuses, il se rendit à pied jusqu'au bas de la ville. On se retournait sur son passage. Face à lui, les hommes étaient graves et courtois, le saluant à la manière du Gondor, la tête courbée et les mains sur la poitrine. Mais il entendait souvent appeler derrière son dos, tandis que ceux qui étaient dehors criaient à d'autres de sortir voir le prince des demi-hommes, le compagnon de Mithrandil. Nombre d'entre eux usaient d'une autre langue que le parler commun, mais il ne mit pas longtemps à comprendre tout au moins ce que signifiait « Ernil y Ferianath », et il sut que son titre l'avait précédé dans la cité. Enfin, par des passages voûtés et plusieurs belles allées aux riches pavages, il parvint au cercle le plus bas et le plus vaste, où on le dirigea vers la rue des Lanterniers, une large voie qui conduisait à la grande porte. Il y trouva la vieille hôtellerie, un grand bâtiment de pierre grise usée par les intempéries, dont les deux ailes s'étendaient en retrait de la rue, séparées par une étroite pelouse, derrière laquelle s'élevait la façade aux multiples fenêtres. Sur toute sa largeur, un porche soutenu par une colonnade donnait accès à l'édifice, précédé d'un escalier qui descendait dans le gazon. Des garçons jouaient entre les colonnes. C'étaient les seuls enfants qu'il avait vus à Minas Tirith, et il s'arrêta pour les observer. L'un d'eux ne tarda pas à l'apercevoir et, criant, il s'élança à travers la pelouse et le rejoignit dans la rue, suivi de plusieurs de ses camarades. Il se tint face à Pipin, l'examinant de bas en haut. « Salutations, » dit le garçon. « Tu viens d'où ? Tu es un étranger dans la cité ?»«
J'en étais un, » dit Pipin. « Mais on dit que je suis devenu un homme du Gondor. »«
Allons, » fit le garçon. « On est tous des hommes ici, à ce compte-là. Mais quel âge as-tu et comment t'appelles-tu »«
J'ai déjà 10 ans et je ferai bientôt 5 pieds. Je suis plus grand que toi. »« Bien sûr, mon père est un garde, parmi les plus grands. Qu'est-ce qu'il fait, ton père ?»«
À quoi dois-je répondre en premier ?» dit Pipin. « Mon père cultive les terres autour de Fontblanche, près de Toquebourg, dans le comté. J'ai presque 29 ans, alors pour ça, je te bats. » Même si je fais seulement 4 pieds et que je ne devrais plus grandir, sinon en largeur.
« 29 ans ?» dit le garçon avec un sifflement. « Ma foi, tu es bien vieux, aussi vieux que mon oncle Yorlas. N'empêche, » ajouta-t-il sans se laisser abattre, « je gage que je pourrais te retourner sur la tête ou bien t'étendre sur le dos. »«
Peut-être, si je te laissais faire, » répondit Pipin avec un rire, « et je pourrais te faire la même chose. On connaît quelques tours de lutte dans mon petit pays. » Ou, soit dit en passant, je passe pour exceptionnellement grand et fort, et je n'ai jamais laissé personne me retourner sur la tête. Alors, si tu t'avisais d'essayer et que rien n'y faisait, je serais peut-être obligé de te tuer. Car quand tu seras plus grand, tu découvriras que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Et au cas où tu m'aurais pris pour un jeune étranger mollasson et une proie facile, détrompe-toi, je ne le suis pas. Je suis un demi-homme, hardi, implacable et terrifiant.
Pipin prit un visage si dur que le garçon recula d'un pas. Mais il revint aussitôt en serrant les poings, une lueur belliqueuse dans les yeux.
« Non !»
s'écria Pipin en riant.
« Ne crois pas non plus ce que les étrangers disent d'eux-mêmes. Je n'ai rien d'un bagarreur, mais si tu cherches à te mesurer à moi, la moindre des politesses serait de te présenter avant. »
Le garçon se dressa avec fierté.
« Je suis Berguil, fils de Bérégon de la Garde, » dit-il. « J'en étais sûr, »
reprit Pipin,
« car tu ressembles à ton père. Je le connais, il m'a envoyé te trouver. »
« Alors pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ?»
s'exclama Berguil. Et soudain, un air de consternation envahit son visage.
« Ne me dis pas qu'il a changé d'avis et qu'il veut m'envoyer avec les filles. Mais non, les derniers chars sont partis. »«
Sa requête est moins pénible que cela, sinon bonne, »
expliqua Pipin.
« Il dit qu'au lieu de me retourner sur la tête, tu pourrais décider de me faire visiter un peu la cité, question d'égayer ma solitude. En échange, je peux te raconter des histoires des pays lointains. »
Berguil tapa des mains et eut un rire de soulagement.
« C'est bon, » s'écria-t-il. « Viens alors, nous étions sur le point d'aller flâner devant la porte. Allons-y tout de suite.
Que se passe-t-il là-bas ? » ?»«
Les capitaines des provinces sont attendus sur la route du sud avant le coucher du soleil. Suis-nous et tu verras. »
Berguil s'avéra un bon camarade, la compagnie la plus agréable que Pipin ait eue depuis qu'il s'était séparé de Mary. Et bientôt, il riait et discutait gaiement tout en flânant dans les rues, insoucieux des nombreux regards qui leur étaient lancés. Avant peu, ils se retrouvèrent au milieu d'une foule qui avançait vers la grande porte. Là, Pipin monta beaucoup dans l'estime de Berguil, car dès qu'il eut donné son nom et son mot de passe, le garde le salua et le laissa passer. Et qui plus est, il lui permit d'emmener son compagnon avec lui.
« Excellent !» dit Berguil. « Nous, les garçons, on n'a plus le droit de passer la porte sans la présence d'un aîné. Maintenant, on verra mieux. »
Dehors, une foule s'était rassemblée sur le bas-côté de la route et en bordure du grand espace pavé où tous les chemins menant à Minas Tirith se rejoignaient. Tous les regards étaient tournés vers le sud et un murmure s'éleva bientôt.
« Il y a de la poussière là-bas. « Ils arrivent !»
Pipin et Berguil se faufilèrent jusqu'au premier rang et ils attendirent. Des cors retentirent à quelque distance et la rumeur des acclamations s'enfla et déferla sur eux tel un coup de vent. Il y eut alors une grande sonnerie de trompettes et tout autour d'eux, les gens criaient.
« Fort longue ! Fort longue !» scandaient les hommes.
« Que disent-ils ? » demanda Pipin.
« Fort longue arrive !» répondit Berguil. « Le vieux Forlong le Gros, seigneur du Losarnac. C'est là qu'habite mon grand-père. Hurrah, le voici, ce bon vieux Forlong !»
À la tête du cortège s'avançait un grand cheval aux jambes épaisses sur lequel se tenait une figure pansue et large d'épaules. Un homme âgé à la barbe grisonnante, pourtant couvert de mailles et casqué de noir, et qui portait une longue et lourde lance. Derrière lui, venait une file d'hommes poussiéreux à la démarche fière, bien équipés et portant de grandes haches d'armes. Ils étaient sévères de traits, plus courts et légèrement plus basanés que tous ceux que Pipin avait vus jusque-là au Gondor.
« Fort longue » criait-on. « Cœur loyal, fidèle ami, fort longue !»
Mais quand les hommes du Losarnac furent passés, on murmura
« Si peu, 200 qu'ils sont, on espérait 10 fois plus !» C'est sans doute les récentes nouvelles de la flotte noire. Ils n'en voient que le dixième de leur force. N'empêche, chaque petit peu compte.
Ainsi les compagnies se succédèrent, saluées, acclamées, puis admises par la grande porte. Des hommes des provinces venus défendre la cité du Gondor à l'heure funeste. Mais toujours en nombre insuffisant, toujours moindre que ce que l'espoir appelait ou que la nécessité demandait. Les hommes du Val du Ringlo, suivant le fils de leur seigneur, Dervorin, allant à pied, 300. Des hauteurs du Morthond, où s'étend le Val de Source Noire, le grand Dwinhir et ses fils, Dwilin et Derufin, et 500 archers. De l'Anfalas, la lointaine longue strande, une longue file disparate d'hommes bigarrés, chasseurs, vachers et habitants de petits villages, mal équipés, sauf pour la maison de Golasgil, leur seigneur.
Du Lamédon, une poignée de rudes montagnards sans capitaine. Des pêcheurs de l'Éthyre, une centaine ou plus, prélevés sur les navires. Irluin le beau des collines vertes, venu de Pinath Gélin, avec 300 vaillants hommes vêtus de vert. Et le dernier et le plus fier, Imrahil, prince de Dol Amroth, parent du Seigneur, avec ses bannières dorées portant l'emblème du navire et du signe d'argent, et une compagnie de chevaliers en harnais sur des montures grises. Et derrière eux, 700 hommes d'armes à la stature de seigneur, aux yeux gris et aux cheveux sombres, qui chantaient en avançant. Et ce fut tout. Moins de 3000 au total. Il n'en viendrait plus d'autres. Leurs cris et le son de leurs pas entrèrent dans la cité, puis s'évanouirent. Les spectateurs se tinrent quelque temps silencieux. La poussière restait suspendue, car le vent était tombé et le soir était lourd. L'heure de la fermeture approchait déjà, et le soleil rouge avait sombré derrière le mine de Luine. L'ombre descendait sur la cité. Pipin leva le regard, et il lui sembla que le ciel s'était fait d'un gris de cendre, comme si un vaste nuage de fumée et de poussière planait au-dessus d'eux, traversé par la lumière mate. Mais dans l'ouest, le soleil moribond avait enflammé les vapeurs, et le mine de Luine se détachait alors en noir sur un âtre dormant, picoté de braises.
« Ainsi une belle journée finit dans la colère, »
dit-il, oublieux de l'enfant qui se trouvait à côté de lui.
« Oui, si je ne suis pas rentré avant la sonnerie du couchant, » dit Bergil. « Allons, c'est la trompette qui annonce la fermeture de la porte. »
Ils regagnèrent la cité main dans la main, dernier à passer les portes avant qu'elles ne soient refermées. Et comme ils entraient dans la rue des Lanterniers, toutes les cloches retentirent solennelles dans les tours. Des lumières surgirent à de nombreuses fenêtres, et des logements et casernes où les hommes d'armes étaient cantonnés le long des murs montaient le son de chansons.
« Au revoir pour cette fois, » dit Bergil. « Transmets mes salutations à mon père et remercie-le pour la compagnie qu'il m'a envoyée. Reviens bientôt, je t'en prie. Je voudrais presque qu'il n'y ait pas de guerre. On aurait passé de bons moments. On aurait pu aller au Losarnac, rendre visite à mon aïeul. Il fait bon là-bas au printemps. Les bois et les champs sont remplis de fleurs. Mais on aura peut-être encore l'occasion d'y aller ensemble. Ils ne battront jamais notre seigneur, et mon père est très brave. Bon vent, et reviens !»
Ils se séparèrent, et Pipin se dépêcha de regagner la citadelle. Le chemin lui parut long. Il se mit à avoir chaud et faim, et la nuit sombre tombait rapidement. Pas une seule étoile ne perçait le ciel. Il était en retard pour le repas principal aux messes, où Bérégon l'accueillit avec joie. Il le fit asseoir à côté de lui et demanda des nouvelles de son fils. Le repas terminé, Pipin resta un moment, mais prit bientôt congé, car une étrange noirceur pesait sur lui. Et il était, à présent, très désireux de revoir Gandalf. «
Pourrez-vous retrouver votre chemin ?» lui demanda Bérégon à la porte de la petite salle, du côté nord de la citadelle, où il s'était assis.
« Il fait nuit noire, d'autant plus qu'on a donné ordre de voiler les lumières dans la cité et de n'en pas laisser filtrer hors des murs. Et j'ai eu vent d'un autre ordre qui vous touche. Vous serez appelé tôt demain matin devant le seigneur Denethor. J'ai peur que vous ne soyez pas affecté à la troisième compagnie. Il est tout de même permis d'espérer que nous nous revoyons. Adieu, et dormez en paix. »
Il faisait noir dans le logement, sauf pour une petite lanterne posée sur la table. Gandalf ne s'y trouvait pas, et l'humeur de Pipin s'assombrit davantage encore. Il grimpa sur le banc et voulut jeter un coup d'œil par l'une des fenêtres, mais c'était comme de regarder dans une mer d'encre. Il redescendit, ferma le volet et alla se coucher. Il resta quelque temps étendu, guettant les sons d'un éventuel retour de Gandalf. Puis, il sombra dans un sommeil inquiet. Au cours de la nuit, il fut réveillé par une lueur derrière le rideau de l'alcôve et il vit que Gandalf était rentré et qu'il arpentait la pièce. Il y avait des bougies sur la table et des rouleaux de parchemin. Le magicien soupira, puis il l'entendit murmurer
« Quand donc Faramir reviendra-t-il ? »
« Bonsoir !»
dit Pipin, écartant le rideau et sortant la tête.
Je pensais que vous m'aviez complètement oublié. Je suis content de vous voir rentrer. La journée a été longue.
Mais la nuit sera trop courte, dit Gandalf. Je suis revenu ici, car il me faut un peu de tranquillité, seul avec moi-même. Vous feriez mieux de dormir, dans un lit, pendant que vous le pouvez. Au lever du jour, je vous conduirai à nouveau devant le seigneur Denethor. Non, pas au lever du jour, mais quand vous serez appelés. L'obscurité a commencé. Il n'y aura pas d'aube.